Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Citurel. Alain Finkielkraut, bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir pour moi d'ouvrir cette série avec vous, une série dont je rappelle le principe. Chaque matin, l'invité de la semaine lit une citation que les auditeurs découvrent dans le journal du matin. Et le dimanche, de 13h30 à 14h, l'invité nous dévoile le secret de ces citations, en quoi elles l'ont marqué, formé, forgé. Il y a donc un pari au cœur de cette émission, le pari que les textes, qu'ils soient littéraires, philosophiques, religieux, nous font ce que nous sommes, sont déterminant pour les destins individuels. Alors cette série est proposée par l'Alliance israélite universelle et ce n'est pas un hasard, car cette institution parie depuis 150 ans sur l'éducation et la culture, sur l'amour du livre et des livres, à travers son réseau d'écoles, le Collège des études juives de Shmuel Trigano, sa bibliothèque, l'une des plus grandes du monde en matière juive, toutes les activités qui sont en train de se mettre en place sur l'ancien site de Legno. Et puis l'Alliance est aussi une institution qui a toujours insisté sur la dimension universelle de la sagesse juive, qui dialogue, parfois s'oppose, mais se construit toujours en interaction avec les autres sphères du savoir, en un mot, place le judaïsme au cœur du processus de civilisation. Mais Alain Finkielkraut, sans plus attendre, attaquons-nous à vos citations, et puis d'abord à la première, Emmanuel Levinas. Ce qui m'a étonné en l'entendant, c'est qu'elle sonne comme une maxime du XVIIe siècle.
Celui-là seul peut reconnaître le visage d'autrui qui a su imposer une règle sévère à sa propre nature. 17e siècle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une phrase merveilleusement anachronique. Notre époque, en effet, est au freudo-rousseauisme, si je puis dire. Pour nous, il ne s'agit pas d'imposer une règle sévère à notre nature, mais bien plutôt de desserrer l'étau de la règle pour laisser s'épanouir la nature. Notre temps préfère la spontanéité à la sévérité. Mais simultanément, nous nous inquiétons toujours davantage de la montée des incivilités. Or, avant même l'agression brutale, quelle est la première incivilité ? Eh bien, c'est le fait d'être et de se répandre dans l'être en toute quiétude, en toute indifférence à l'existence des autres. C'est empiéter sur le domaine d'autrui par des comportements péremptoires, c'est-à-dire par exemple bruyants. Donc, ce que Levinas nous donne à entendre, c'est l'idée selon laquelle imposer à une règle à sa nature ne procède pas de l'esprit de mortification, mais du respect de l'existence des autres. On tient compte de leur existence, c'est pourquoi on existe sans insister, on existe sur la pointe des pieds, d'où notre situation très étrange. Nous préconisons la spontanéité et nous nous inquiétons des incivilités. Ce qui me fait penser à une autre maxime de Bossuet, celle-là. Dieu se rit des prières qu'on lui adresse pour détourner de soi les maux dont on persiste à chérir les causes. Lévinas, par cette maxime, nous aide à sortir de notre contradiction, et en même temps, son éloge du ritualisme juif a ceci de passionnant, que il récuse la tendance majoritaire à préférer l'intériorité à l'extériorité. Une religion de l'intériorité, c'est mieux qu'une religion fondée sur les formes et les rites. Non, dit Levinas, dans cette extériorité, il y a précisément une sagesse, la sagesse qui consiste à faire sa place aux autres dans notre vie elle-même, à nous restreindre, une répression qui procède de l'esprit d'une restriction indispensable. Et ce que cette maxime nous dit, c'est que nous devons rester des êtres ritualisés, quand bien même, comme moi, nous ne serions plus des êtres religieux.
Alain Finkielkraut, votre deuxième citation, « La défiance fait plus de dupes que la confiance ». Une citation du cardinal de Retz, un des chefs de la Fronde au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui vous touche chez cet homme politique plus que religieux?
Si vous voulez, il y a des citations qui peuvent être de véritables viatiques. Des citations qui vous aident dans certains moments de votre vie. Et celle-là m'aide à ne pas céder à un penchant, si vous voulez, qui est pourtant quasi irrésistible. Nous sommes les héritiers des moralistes, les héritiers de cette méthode psychologique qui a découvert, sous le sublime moral, les appétits réputés les plus bas et les plus inavouables. Notre morale, ou notre appréhension du monde, est née de la mise en cause de la morale glorieuse. L'homme n'est pas grand. Et nous pensons donc que rabaisser, c'est connaître, ou que connaître, c'est rabaisser. Au fond, nous avons encore en tête les noeuds de La Rochefoucauld. L'humilité n'est souvent qu'une feinte soumission dont on se sert pour soumettre les autres. Donc, la vérité pour nous a la couleur de la désillusion. Et moi, je pense au cardinal de Retz à chaque fois précisément que je suis face à l'incertitude. Voilà, un événement arrive, quelqu'un surgit dans ma vie. Vais-je céder à la défiance ou vais-je faire confiance? Suran dit « La peur d'être dupe est la version vulgaire de la recherche de la vérité ». Eh bien oui, peut-être faut-il se dire que on est dupe quelquefois quand on a recours de manière trop systématique à la désillusion. On peut être, autrement dit, je crois que c'est un verbe allemand, déçu en bien. Se dire cela, c'est, je trouve, aborder la vie avec de meilleures chances que si l'on persiste à penser que le soupçon est la voie royale de l'intelligence.
Alors, troisième citation, Milan Kundera, on va tout de suite la relire, une très belle citation sur l'humour qui a quelque chose de désespéré.
L'humour, l'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l'homme dans sa profonde incompétence à juger les autres. L'humour, l'ivresse de la relativité des choses humaines, le plaisir étrange issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. Et à un autre, dans l'art du roman, Kundera cite aussi un proverbe yiddish. « L'homme pense, Dieu rit ». Et Kundera ajoute « Il me plaît à penser que l'art du roman est venu au monde comme l'écho du rire de Dieu ». Mais moi, si j'ai choisi parmi des dizaines d'autres cette phrase de Kundera, c'est parce que je suis frappé et meurtri, si je puis dire, par le déferlement d'hilarité qui tombe sur nous aujourd'hui. Au fond, l'humour, cela consiste pour l'homme à ne pas se prendre trop au sérieux. Il y a en lui la reconnaissance et la modestie de la finitude. On pourrait dire, les amuseurs, omniprésents aujourd'hui, ne prennent rien au sérieux. Et donc, à leur façon, ils radicalisent l'humour. En fait, non. Ils l'achèvent au sens de « on achève bien les chevaux ». Le rire des amuseurs n'est pas un accomplissement de l'humour, c'est sa mise à mort. Il n'y a plus aucune modestie dans ce rire-là. Il y a au contraire, je ne sais pas comment dire, une arrogance, l'arrogance de la vulgarité, la morgue de l'immanence. Kundera met l'accent sur l'insuffisance de la pensée, et là, je vois à l'œuvre la suffisance de la bêtise. Je voudrais prendre un exemple qui me concerne. J'étais l'autre jour à une émission de radio avec des humoristes, puisqu'ils sont omniprésents et inévitables. Ils faisaient des petites chroniques, deux chroniques, et l'un et l'autre se sont vantés de n'avoir lu aucun de mes livres, et surtout pas celui pour lequel j'étais invité. Bon, peu m'importait. Mais c'était tout à fait révélateur. On ne va pas s'emmerder avec des choses intellectuelles. Un rire qui serait celui, en quelque sorte, de l'homme intestinal, du ressentiment contre tout ce qui dépasse. Et la phrase de Kundera est d'autant plus émouvante aujourd'hui qu'elle nous dit ceci. L'humour n'est peut-être qu'une parenthèse dans l'histoire du rire, et il est possible que cette parenthèse soit en train de se refermer.
Alors, plus fondamentalement, il y a dans cette phrase de Kundera quelque chose aussi d'assez désespéré, presque de nihiliste. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ce nihilisme, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce qui... Voilà, le bien et le mal, quelque part, n'est pas à la portée de l'homme, et puis le moraliste qu'on entendait chez Lévinas au début.
Non, je ne dirais pas que cette phrase est nihiliste. Elle met en cause, elle est sceptique, si vous voulez. Kundera est un homme des temps modernes. On se sent que, précisément, il choisit toujours le scepticisme de préférence au fanatisme. Ainsi sont nés les temps modernes, après les guerres religieuses qui ont ensanglanté l'Europe, et Kundera a retrouvé ce scepticisme parce qu'il a connu le fanatisme idéologique du XXe siècle. Il l'a connu et subi dans sa chair. Mais bien sûr, il y a, si vous voulez, une fine frontière qui sépare le scepticisme du nihilisme. Et cette frontière est franchie par le nouveau rire, parce que ce nouveau rire-là, ce rire des amuseurs, il met tout à égalité, tout, rien ne ressort. C'est la terrible égalité, justement, de l'immanence pure. Et donc, Kundera ne dit pas « tout se vaut », il invite simplement l'homme à ne jamais oublier que il n'est pas seul. Donc, de ce point de vue-là, il rejoint Lévinas, et que, au fond, c'est aussi ce que dit Jean Kelevitch. Jean Kelevitch dit « L'humour substitue au triomphe des triomphants le doute et la précarité. » Et nous succombons aujourd'hui sous la violence d'un rire triomphal.
Quatrième citation, Alain Finkielkraut, La Fontaine. Et alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, de presque musical. Vous l'avez choisi parce que c'est votre mode d'emploi pour l'existence, ou vous voudriez bien que ce soit ça?
Vous avez raison. J'aimerais que ce soit ça, et je ne suis pas sûr du tout d'être à la hauteur de l'admirable sagesse de La Fontaine. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Cette profession de foi est un défi à la métaphysique traditionnelle, qui oppose le sensible à l'intelligible, le matériel au spirituel, le terrestre au céleste, et qui précisément affirme la primauté du spirituel, de l'intelligible, du céleste. C'est cela, le souverain bien. Or, La Fontaine se refuse à cette hiérarchie. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, dit-il. Il goûte à la fois le plaisir des sens et le plaisir de l'intelligence. Son idéal voluptueux s'oppose à toute forme d'idéal ascétique. La question, pour moi, c'est suis-je à la hauteur de cet hédonisme-là? Suis-je capable de tout aimer, hein, la musique comme les livres, le jeu comme l'amour, la ville comme la campagne? J'ai le sentiment de ne pas savoir déployer tout cet éventail-là. Et puis, je suis fasciné aussi par les derniers vers. Il n'est rien, enfin, qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. T'ouvrez du plaisir dans la mélancolie, voilà qui est absolument fascinant. Mais moi, ce n'est pas la mélancolie qui me guette quand ça ne va pas, c'est la dépression. Et la dépression est un avachissement, un effondrement dont on ne peut tirer aucune espèce de plaisir. Donc, je vois cette phrase un peu comme un idéal inaccessible.
Et pour terminer, Alain Finkielkraut, une citation du Rabbi Chaim de Vologine,
oui,
qui alors, nous permettra peut-être de faire le lien entre le livre et les livres.
Absolument, vous avez raison, l'écriture compare la Torah au produit de la récolte et la crainte de Dieu à une grange dans laquelle on les entasse et on les conserve. La crainte de Dieu est la grange dans laquelle la sagesse de la Torah se conserve. Si l'on ne prend pas soin au préalable de préparer la grange de la crainte, l'abondante moisson de la Torah gît à même le sol, exposée au piétinement du bœuf et de l'âne, et s'abîme. Alors, bien sûr, la modernité se définit comme l'âge de l'audace. C'est la devise kantienne, sapere aude, ose te servir de ton propre entendement. La crainte relève justement de l'hétéronomie, hein, d'un âge ancien dont nous nous serions émancipés en devenant autonomes. Alors, cette réflexion de Rabbi Chaim de Vologine peut apparaître en première instance comme folklorique, comme le témoignage d'une époque révolue. Pas du tout pour moi, parce qu'il me semble que le respect de la culture est précisément l'équivalent laïque de cette crainte dont, après les sages, parle Chaim de Vologine dans L'âme de la vie. On aborde les œuvres du patrimoine avec timidité. Elles nous en imposent nos maîtres, nos prédécesseurs, nos pères, les portes nues, et nous leur faisons confiance. Nous les croyons. Au fondement de la culture, il y a crédit, croyance, crédulité même. Un classique, c'est un livre dont l'aura ne procède pas de la lecture, mais la précède en quelque sorte. Hein? Et les classiques nous jugent avant que nous les jugions. Nous nous inclinons avant de céder à notre inclination. Nous admirons avant de comprendre, et c'est parce que nous admirons que nous comprenons. Et pourquoi ai-je cité cette phrase? C'est parce qu'aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de la crainte de la culture. La culture ne se dit plus au singulier, au pluriel. Elle n'est plus constituée des grandes œuvres de l'humanité. Elle désigne tout ce qui est, sans exclusive. Il y avait autrefois la culture et le reste, et cette discrimination est de plus en plus perçue comme attentatoire à la diversité des goûts, des communautés, des pratiques, des comportements. Donc, l'humanisme était fondée sur l'opposition entre la culture et l'inculture. Or, cette opposition fondatrice se dissout aujourd'hui dans le tout culturel. Ce sont les ravages de l'égalité. Tous les hommes sont égaux. On en déduit que tout est égal, le nihilisme dont vous parliez tout à l'heure, l'équivalence à raison de l'éminence, et on voit ainsi la démocratie elle-même démanteler la grange de la crainte. Résultat, l'abondante moisson de la culture gît à même le sol, exposée au piétinement du bœuf et de l'âne, et elle s'abîme.
Alain Finkielkraut, merci d'avoir avec nous fait ce parcours. Et puis pour ceux qui veulent poursuivre avec vous ce dialogue autour des textes, bien je ne peux que leur recommander « Et si l'amour durait », votre dernier essai sur l'amour construit autour de grands romans, dont « La princesse de Clèves », un roman de Philippe Roth et plusieurs romans de Milan Kundera. Et c'est aux éditions Stock. Merci Alain Finkielkraut.
Merci Ilana.
La semaine prochaine, mon invité sera Alexandre Adler. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur le site de RCJ et sur le site de l'Alliance israélite universelle. C'était « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Sicurel.